Bonjour, on va donc reprendre et aujourd'hui on va continuer sur cet aspect de représentation de signaux dont un des buts c'est de construire des représentations de plus basse dimension pour éventuellement faire de la classification et l'autre aspect ce sont vraiment les applications en traitement du signal comme par exemple les applications de compression, de débruitage, etc. Et ce qu'on a vu, c'est qu'un des éléments, évidemment, qui va être très important pour permettre de faire de la réduction de dimensionnalité, c'est que le signal ait une forme de régularité, une forme de régularité qui va permettre d'avoir un nombre limité de descripteurs, de coefficients, ça peut être un échantillonnage uniforme, ça peut être des coefficients dans une base, et d'une certaine manière de remplir les trous, c'est-à-dire de faire une espèce d'interpolation grâce à la régularité sous-jacente du signal. Et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que la façon la plus naturelle de définir cette notion de régularité, en tout cas la plus intuitive, c'est de définir une régularité au sens de local, de dérivée, dérivée première, dérivée seconde, et que très naturellement, on allait tomber du coup sur la base de Fourier. Et la base de Fourier, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que ça permet de décrire la régularité uniforme de la fonction, au sens où si vous avez une fonction qui est bien régulière, la transformée de Fourier va décroître rapidement aux hautes fréquences, et du coup, vous allez pouvoir ne garder que les basses fréquences et avoir une bonne description de votre fonction, donc avec un nombre limité de coefficients. Donc ça, ça marche très bien tant que votre fonction est effectivement uniformément régulière. Et donc, si je suis sur une fonction qui a une seule variable, par exemple le temps, quelque chose comme ça, dans le domaine de Fourier, on l'a vu, la transformée de Fourier d'une telle fonction x de t qui va devenir maintenant les coefficients de Fourier, c'est-à-dire la corrélation entre la fonction et ses différentes exponentielles, eh bien ça va avoir une forte décroissance dès que la fréquence oméga va augmenter. Donc, du coup, comme je le disais, on va pouvoir couper et ne garder que m coefficients et avoir une bonne approximation. Le problème, c'est dès que vous avez des structures transitoires. C'est-à-dire, si votre fonction a une composante comme ça et qui arrive de temps en temps, eh bien, évidemment, la transformée de Fourier, tout va s'effondrer parce que la régularité de la fonction, c'est d'une certaine manière la régularité du pire cas. Si vous avez une discontinuité, vous allez dire que votre fonction est discontinue quand bien même elle avait des zones où elle était extraordinairement régulière. Et donc, ce qu'on a envie, c'est pouvoir utiliser l'existence de zones régulières et aussi pouvoir caractériser le type de singularité. Ça va être très important quand on fait de la reconnaissance de forme, parce qu'essentiellement, l'information, elle est souvent concentrée dans les singularités. Si vous prenez, par exemple, une image, quand vous dessinez, toujours la même chose que je dessine, je suis désolé, mais je n'ai pas beaucoup évolué. Ça, c'est le typique de ceux qui n'ont pas évolué depuis l'âge de 5 ans dans leur dessin. Donc, il y a des très bons bouquins pour vous aider pour évoluer. Moi, j'ai essayé, mais à chaque fois, je reviens toujours au même. Mais n'empêche que quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Vous décrivez d'une certaine manière le support singulier de la fonction, c'est-à-dire là où il y a des singularités, là où il y a des discontinuités ou d'autres types de singularités, par exemple le long des cheveux. Donc, c'est évident, les singularités sont fondamentales et on a envie de les extraire. Donc, il y a les deux points de vue. À la fois, pouvoir extraire les singularités et pouvoir dire, pas simplement, ça, c'est une singularité, mais pouvoir la caractériser précisément. Elles sont de types différents. Et aussi, pouvoir représenter cette fonction avec le moins de coefficients possible pour pouvoir faire de la compression. Alors, le problème des sinusoïdes, on le voit tout de suite, c'est qu'une sinusoïde, c'est quelque chose qui oscille à une fréquence oméga comme ceci, de moins l'infini à plus l'infini. Donc, ça va être sensible à tout ce qui se passe sur le support de la fonction. Et donc, ça ne va pas pouvoir discriminer les choses. Donc, l'idée qui est apparue, alors ça, autour des notions de temps fréquence et d'ondelette, ces idées-là ont une longue histoire. Elles ont une longue histoire. Véritablement, le sujet sur ces notions de représentation locale à la fois en temps et en fréquence est apparu avec un physicien qui s'appelait Gabor, qui avait eu prix Nobel pour quelque chose complètement différent, qui est l'holographie, et qui par contre donc, faisait de la physique quantique et évidemment était au cœur de ces problématiques d'incertitude qui apparaît en mécanique quantique entre, par exemple, la mesure de la position d'une particule et la quantité de mouvement. Cette incertitude, en fait, elle est liée à la transformée de Fourier, et en mécanique quantique, une des questions qui se pose, c'est évidemment d'être capable de mesurer les deux quantités avec une relativement bonne précision dans les deux cas, et pour faire ça, eh bien, apparaissent ce qu'on appelle des états cohérents, donc des fonctions qui sont bien localisées à la fois dans le domaine du temps et dans le domaine de fréquence. Et en fait, Gabor est passé au traitement du son, à réaliser que ce type de représentation bien localisée en temps et en fréquence, bah, d'une certaine manière, ça ressemble beaucoup à des notes de musique. Ce sont des façons très naturelles de représenter les signaux, en particulier le son. Et c'est là qu'a émergé toutes les notions de spectrogramme, de transformée de Gabor, et l'analyse de temps-fréquence pour le son. Le même type de concept apparaît pour les images, et on va le voir sur une forme un petit peu différente, que sont les transformées en ondelettes, mais c'est véritablement une continuation de ces idées initiales de Gabor. Et c'est une continuation qui est apparue simultanément à peu près dans tous les domaines. C'est-à-dire que cette importance d'être capable de capturer à la fois des singularités, la régularité locale de la fonction, et on le verra aussi, cette notion d'échelle, ben, on l'a vu apparaître en physique, on l'a vu apparaître en traitement d'image, on l'a vu apparaître en son, en géophysique, un peu partout, et en mathématiques. Et c'est un peu cette synthèse de toutes ces idées que couvre toute cette théorie des ondelettes. Alors, l'idée de base, eh ben, c'est justement de remplacer ça par une fonction qui est plus localisée. Donc, qu'est-ce que ça va être une ondelette ? Ben, en quelque sorte, c'est une sinusoïde localisée, c'est-à-dire c'est une fonction qui va osciller, mais qui va assez rapidement mourir, avoir une décroissance rapide, voire un support compact. Donc, c'est une fonction psi de t comme ceci. Et l'idée, c'est un peu comme les sinusoïdes, ce qu'on veut, c'est utiliser cette ondelette pour mesurer des variations locales. Donc, pour être sûr que l'ondelette va bien effectivement mesurer des variations locales, on veut s'assurer que l'ondelette soit de moyenne nulle. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la fonction x et on va la décomposer sur les ondelettes. Mais évidemment, l'ondelette, ici, elle a un support qui est localisé, disons, par exemple, entre ici, moins k et k, et donc ne va pas pouvoir couvrir tout le support de la fonction f. Donc il va falloir la translater pour pouvoir couvrir tout le support de la fonction f. Il y a un deuxième aspect, c'est que vous voyez la sinusoïde, ben elle, ici, cette espèce de sinusoïde localisée, cette ondelette, elle oscille à peu près à une certaine fréquence. Et du coup, si elle oscille à une certaine fréquence, elle ne va pas pouvoir capturer des structures extraordinairement singulières qui vont varier très rapidement ou des structures qui varient très lentement. Pour pouvoir obtenir cette caractérisation à la fois des hautes fréquences et des basses fréquences, eh ben c'est un peu comme les sinusoïdes qui varient en fréquence. Une variation de fréquence, on peut voir ça comme une dilatation de la sinusoïde. Eh ben on va faire la même chose sur l'ondelette. On va les dilater. Donc il y a deux actions. On va prendre l'ondelette. Je vais d'abord la dilater. Alors, pour m'assurer que l'intégrale de la fonction au carré ne bouge pas, je vais mettre un 1 sur racine de s. Psi de u sur s, c'est quoi ? C'est la même fonction si je représente ici mon ondelette. Si s est plus petit que 1, eh ben, je vais avoir une fonction comme ceci, dont le support, ça va être ks. Si s est plus grand que 1, eh ben, la fonction, elle va osciller plus lentement. D'accord ? Ça, c'est une fonction. S, c'est grosso modo un facteur près, le support de la fonction au facteur k près. Donc, on va avoir ces ondelettes qui maintenant vont osciller à différentes vitesses, et puis, comme je l'ai dit, il va falloir les translater. Donc, on va définir la transformée en ondelettes, que je vais ici noter W, en anglais c'est wavelet, donc on prend souvent le mot W, à une échelle S et une position U, et bien tout simplement comme la corrélation de la fonction X, je vais faire ici X de V, avec l'ondelette, alors, c'est-à-dire 1 sur racine de S, psi de V moins U sur S. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de considérer? On est en train de considérer toutes les ondelettes qui ont été dilatées, translatées par U, donc pour tout U, et pour tout S positif. D'accord? Donc là, du coup, vous pouvez voir ces espèces d'ondelettes comme des instruments d'un zoom, où vous allez vous placer au voisinage d'un point U dans le signal, et puis vous allez placer une ondelette au voisinage de ce point U, dont le support est proportionnel à S, et vous allez mesurer la variation locale de la fonction au voisinage de U sur un voisinage de taille proportionnelle à S. D'accord? Alors, comment ce qu'on... Donc ceci, c'est quoi? Encore une fois, c'est une intégrale, hein, c'est le produit scalaire, et si votre ondelette est complexe, alors vous avez un complexe conjugué, mais si elle ne l'est pas, vous n'en avez pas. Éventuellement, je le mets, mais dans toute la suite, les ondelettes vont être réelles, on pourra oublier ce complexe conjugué. Alors, quand vous voyez quelque chose comme ça, on peut voir ça aussi comme une convolution. Ça ressemble pratiquement, je vais enlever ici le complexe conjugué pour ce que j'en aurais pas besoin. Ça, c'est pratiquement une convolution, sauf que normalement, une convolution, pour en avoir une, il faudrait que ce soit psi de U moins V. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais introduire la fonction psi bar de S pris en U. C'est la même chose, sauf que c'est la fonction psi de moins U sur S. Si je fais ça, eh ben l'intégrale ici, c'est l'intégrale de x de V. Ça va être psi bar pris en U moins V. Psi bar de US pris en U moins V dV. Alors là, véritablement, on reconnaît une convolution. Donc, en fait, une transformée en ondelette, ça peut être tout simplement vu comme le filtrage, la convolution du signal X avec une ondelette prise au point U. D'accord ? Donc ça n'a vraiment rien d'extraordinaire, c'est tout bêtement un filtre. Un filtre qui est localisé en temps. Alors, comment on peut interpréter ce filtre ? Ben, ce qu'on a vu, c'est qu'on veut que l'ondelette capture une variation locale, donc que l'intégrale soit nulle. Alors, je vous rappelle, ça va être quoi la transformée de Fourier d'une fonction? C'est l'intégrale de la fonction e puissance moins i oméga t dt. Si vous mettez oméga égale 0, eh ben, ce que vous allez avoir ici, ça vaut 1. Donc la transformée de Fourier en 0, ce n'est autre que l'intégrale de la fonction. Donc si vous imposez que l'intégrale de la fonction est égale à 0, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de considérer une ondelette dont la transformée de Fourier, je vais la montrer ici, est nulle à la fréquence 0. Si c'est une fonction qui est réelle, je vais avoir une symétrie hermitienne, je vais considérer ici le module, et donc je vais avoir quelque chose typiquement qui va ressembler à quelque chose comme ça, c'est-à-dire ça va être typiquement un filtre qui est un filtre passe-bande, c'est-à-dire qui tue les basses fréquences, qui tue les très hautes fréquences parce qu'il va y avoir une décroissance. Pourquoi? Parce que ma fonction est bien localisée en temps, et donc qui va couvrir une certaine bande de fréquences. Donc ça, en fait, on fait tout bêtement du filtrage passe-bande. Alors, qu'est-ce que le facteur S va faire? Ben, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une fonction et on l'a dilaté. Si maintenant je calcule la transformée de Fourier de cette fonction-là, du filtre, donc je fais la transformée de Fourier à une fréquence oméga, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma fonction psi et je l'ai dilatée. Quand vous dilatez une fonction, alors ça c'est une propriété qui est importante, quand vous avez une fonction x et que vous la dilatez, sa transformée de Fourier, je dilatais, je vais mettre sur S, pardon, la transformée de Fourier, ça va être S fois transformée de Fourier de X, multiplié S oméga. Donc ça, je vous laisse vérifier, c'est un simple changement de variable dans la définition de la transformée de Fourier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous dilatez une fonction, la transformée de Fourier va être comprimée par le facteur inverse. D'accord ? Parce que vous voyez, là, le S, il apparaît au nominateur. Donc, la transformée de Fourier de ceci, eh bien, vous allez avoir la transformée de Fourier de psi qui va être dilatée par le facteur inverse, le S fois 1 sur racine de S, ça va vous donner un racine de S, et là, j'ai un moins U, et la transformée de Fourier comme psi est réelle, je vous laisse vérifier que ça va simplement introduire un complexe conjugué ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit qu'en fait, quand on change l'échelle en temps, eh bien, on change aussi l'échelle en fréquence par le facteur inverse. Donc, si je redessine ici mon ondelette qui va avoir une espèce de tête comme ça, ça, c'est, disons, module de psi de oméga, eh bien, si S est plus grand que 1, c'est-à-dire je la dilate en temps, c'est-à-dire je la comprime en fréquence. Je vais avoir une transformée de Fourier qui va ressembler à quelque chose comme ça, psi de S oméga. Ça, c'est un S plus grand que 1. Et un S plus petit que 1, vous allez avoir une transformée de Fourier qui, au contraire, va dilater. Psi de S oméga, ça, c'est pour un S qui est plus petit que 1. Alors, ce n'est pas très surprenant, parce que, regardez, en temps, ça, ça correspond à une fonction qui va osciller beaucoup plus vite. Donc, on voit bien que c'est une fonction qui va couvrir des hautes fréquences. Alors que quand S est plus grand que 1, ça correspond à une fonction qui oscille beaucoup plus lentement. Donc, on voit bien que c'est bien une fonction ici qui va capturer des basses fréquences. D'accord ? La grosse différence, encore une fois, par rapport à la transformée de Fourier, c'est que ces fonctions, elles sont maintenant localisées en temps. Donc, elles vont pouvoir extraire des basses fréquences localement ou des hautes fréquences localement. Alors, la manière dont Gabor voyait les choses, et c'est ce dont les physiciens ont l'habitude de voir ça, c'est d'introduire ce qu'on appelle un plan temps fréquence. L'idée est la chose, c'est de regarder, quand vous avez une fonction, c'est de regarder d'un côté l'axe des temps et de mettre en ordonnée l'axe des fréquences. D'accord ? Et si vous regardez une fonction, vous pouvez la représenter dans le temps, donc vous pouvez avoir la valeur de la fonction x de t, ou vous pouvez représenter sa transformée de Fourier, x de oméga. Maintenant, il y a des fonctions un peu particulières qui sont bien localisées en temps, comme par exemple des ondelettes. Et ces fonctions un peu particulières, c'est ce qu'on peut appeler des états cohérents. C'est, en physique, c'est une fonction qui va être... Voilà, vous allez avoir une fonction comme ceci. Cette fonction, psi de t, elle a une transformée de Fourier qui, elle, est localisée en fréquence dans une certaine bande de fréquence. Ça, c'est sa transformée de Fourier, psi de oméga. Donc, d'une certaine manière, si vous regardez le support de cette fonction, en temps, elle couvre un intervalle ici, en fréquence, elle couvre un intervalle ici. Donc, dans ce plan, on peut voir ça comme une espèce de boîte dont la largeur, c'est le support en fréquence, et comme ceci, la hauteur et la largeur support en temps. Donc, vous avez une espèce de boîte, une boîte temps-fréquence qui couvre à la fois le support temporel et fréquentiel de la fonction. Ça vous dit, ça me donne une information localisée ici sur la fonction d'origine, mais ici sur ses fréquences. Alors, quel est le lien avec la mécanique quantique et le principe d'incertitude ? Vous avez un théorème qui vous dit que si vous regardez la surface de cette boîte, que vous mesurez par la variance ici de cette fonction et de celle-ci, eh bien, la surface est toujours plus grande, ça dépend comment on normalise, mais qu'une constante qui peut être comme ceci, un quart. Alors, je ne vais pas aller là-dessus aujourd'hui parce que ce serait faire un détour par rapport à la ligne centrale du cours cette année qui est vraiment plus sur les aspects de classification. Mais le point, c'est que pour avoir une boîte dont la surface n'est pas trop grande, c'est-à-dire qui vous donne une information jointe à la fois précise en temps et précise en fréquence, eh bien, il faut avoir une fonction bien localisée en temps et en fréquence, et c'est ça qu'on essaye de faire quand on construit des ondelettes, et en particulier des ondelettes qui sont à la fois bien régulières, pour être localisées en fréquence, et bien localisées en temps. Donc, maintenant, quand je bouge mon ondelette, eh bien, quand je la bouge en la translatant, je vais avoir des boîtes ici, donc je vais couvrir des informations sur des domaines temporels qui sont différents. Mais si maintenant je bouge l'échelle, ben qu'est-ce qui se passe quand on bouge l'échelle? Vous voyez, le support fréquentiel de l'ondelette est déporté. En fait, si le support de l'ondelette était centré à une fréquence xi, ici, il se retrouve centré sur une fréquence xi sur s. Et donc, quand s est petit, la boîte elle va se déporter vers les hautes fréquences et devenir plus étroite en temps, alors que quand s est plus grand, elle va se trouver déportée vers les basses fréquences, et avec, ça c'est un s qui est plus grand que 1, et ça c'est un s qui est plus petit que 1. Grand support temporel, petit support fréquentiel du côté des basses fréquences. D'accord ? Ça c'est mon axe de fréquence. Et donc, vous êtes en train de couvrir tout votre plan temps fréquence avec des boîtes qui ont des formes qui vont bouger quand S change. Par contre, si vous regardez la surface de ces boîtes, c'est toujours la même. Parce que quand je l'étends par un facteur S en temps, je la réduis par un facteur S en fréquence et inversement. Donc, vous avez des boîtes dont le rapport entre la hauteur et la largeur dépend du facteur S, mais dont les boîtes, dont les surfaces sont toujours constantes. Et ça, c'est d'une certaine manière l'interprétation temps-fréquence des ondelettes. Alors, ce qu'on verra une autre fois, c'est que ça, c'est aussi la façon tout à fait naturelle de représenter, par exemple, les sons. Et notamment, vous avez dans l'oreille un petit organe qui s'appelle une cochlée, qui en fait fait une décomposition du son avec une représentation temps-fréquence qui est essentiellement du même ordre. Simplement, dans ce cas-là, les ondelettes, elles sont très précises en fréquence. Typiquement, vous avez de l'ordre d'une trentaine d'ondelettes par octave. C'est un peu comme sur un piano. D'une certaine manière, vous pouvez là imaginer les ondelettes comme des demi-tons en musique. Et donc, ça, c'est le principe. Là, vous avez l'expression mathématique de la chose. Alors, quel est le lien, maintenant, avec ces histoires de singularité? On va pouvoir essayer de regarder qu'est-ce qui se passe si, maintenant, vous avez une fonction qui est singulière en un point. Et comment est-ce qu'on mesure la régularité locale d'une fonction? On a vu qu'il y avait un outil très naturel qui est la régularité lipschitzienne. Donc je vais reprendre cet outil et on va voir le même type de résultat que ce qu'on avait vu en Fourier, à savoir que la régularité de la fonction, je vais pouvoir l'exprimer en fonction de la décroissance des coefficients d'ondelette. La différence, c'est que là, on va pouvoir le faire localement. Et donc, du coup, on ne va pas simplement pouvoir dire « il y a une singularité », mais on va pouvoir savoir où est la singularité très précisément. Donc, je vous rappelle l'idée de la définition d'une fonction qui est Lipschitz alpha. L'idée, et je vais ici le faire en version plus simple, où je vais prendre alpha entre 0 et 1, c'est de regarder l'incrément de la valeur de la fonction f au voisinage, disons, d'un point U. Et si ceci est plus petit que t, c'est x ma fonction. C qui éventuellement va dépendre du point U de v moins U, pour tout v, alors vous dites que x et Lipschitz alpha au point U. D'accord ? C'est-à-dire, vous regardez les incréments de la fonction x au voisinage de U, et lorsque V tend vers U, excusez-moi, il y a un alpha ici, ça va, quand alpha va être égal à 1, vous allez avoir une fonction qui est presque partout dérivable, et le alpha, il va vous caractériser la singularité. Donc si vous avez une discontinuité au point U, eh bien, alpha égale 0. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez dire, c'est que la fonction est bornée. Si vous avez une singularité qui a une tête comme ça, un cusp, bah, typiquement, alpha va être entre 0 et 1, et ça va vous caractériser le type de singularité. Et si vous avez une fonction qui est bien continue, alors alpha va être plus grande que 1, et pour caractériser alpha plus grande que 1, on remplace x de v, éventuellement la x de u, ici, par un polynôme au voisinage de u. Mais là, je vais m'intéresser aux singularités, donc je vais prendre alpha entre 0 et 1. Donc la question, c'est en quoi est-ce que ce type de régularité est relié à la transformée en ondelette ? Ce que vous pouvez faire, c'est calculer les coefficients en ondelette. Et ce qu'on va voir, c'est la propriété suivante. Alors, je vais peut-être le faire dans le cas général, en fait. Ça, c'est un polynôme, d'accord ? Et c'est un polynôme qui est de P de U et de degré Q. Alors, Q qui doit être l'entier juste au-dessous de alpha. L'idée, c'est que dans ce cas-là, on approxime la fonction par un polynôme, et c'est l'erreur entre le polynôme et la fonction qu'on a vue qui va se comporter comme V moins U à la puissance alpha. Alors, ce que la proposition suivante va vous dire, c'est que si X est Lipschitz alpha, alors, en U, alors vous allez avoir la propriété suivante, c'est que le produit scalaire, autrement dit le coefficient d'ondelette, alors pour simplifier, je vais écrire ces fonctions-là comme psi S localisé au point U pris en V. Donc le produit scalaire entre la fonction X et l'ondelette dilatée par S localisée en U, ça va être plus petit que la constante ici fois un certain élément bêta que je vais spécifier, et S surtout à la puissance alpha plus 1,5. Et pour avoir cette propriété, je vais avoir besoin de la propriété suivante en plus, c'est que l'ondelette psi a des moments nuls. Et je vais expliquer ce que ça veut dire ici des moments nuls. Alors, ici, ce qu'on a simplement imposé sur l'ondelette, c'est que l'intégrale de l'ondelette, pour l'instant, soit égale à 0. Ce qu'on peut imposer, c'est que l'ondelette oscille un peu plus, et notamment, on va imposer que l'ondelette soit orthogonale aux parties polynomiales, donc ceci soit égal à 0, pour k plus petit que q. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'intègre l'ondelette par rapport à n'importe quel monôme, j'ai 0. Si je fais une combinaison linéaire de ces monômes, j'ai un polynôme, et l'ondelette ne va pas voir ce polynôme. Autrement dit, pour n'importe quel polynôme qui est une combinaison linéaire, l'intégrale contre l'ondelette va être égale à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle des ondelettes qui ont des moments nuls. Autrement dit, l'ondelette, elle va ignorer la partie polynomiale qui approxime localement la fonction. Si elle ignore la partie polynomiale, elle va être simplement sensible aux erreurs par rapport au polynôme. Et c'est ça qui va expliquer ce résultat. Alors observez, qu'est-ce que dit ce résultat ? Il dit, si la fonction est localement bien régulière, donc elle est Lipschitz alpha avec un grand alpha, quand l'échelle S tend vers 0, donc vous avez des ondelettes de plus en plus petites, le produit scalaire, autrement dit, la variation locale de la fonction calculée en l'intégrant contre une ondelette, va tendre vers 0 comme l'échelle à la puissance alpha. Si alpha est grand, ça va tendre vers 0 très vite. Donc l'amplitude des coefficients d'ondelette va devenir petite. Une des manières de voir ces coefficients, c'est en portant horizontalement la position S, l'axe des échelles et la position U, et en un point ici, Eh bien, si je regarde la valeur des coefficients d'ondelette, les coefficients d'ondelette, c'est-à-dire ces produits scalaires ici, vont tendre vers zéro très vite, quand l'échelle S tend vers zéro. Alors, je vais montrer ceci, et on va voir que ça, c'est au cœur des phénomènes de parcimonie. C'est-à-dire, c'est au cœur du fait que, je vais placer ici, une fonction qui est régulière va pouvoir s'approximer avec peu de coefficients. Et on va voir que ces peu de coefficients, ça va être en fait des coefficients à très grande échelle. Alors que les singularités, on va pouvoir les capturer avec aussi un nombre relativement minime de coefficients si vous avez peu de singularités, mais par contre aux petites échelles. Alors d'abord, d'où vient cette propriété ? L'idée, c'est que si vous avez une fonction qui est Lipschitz alpha, ça veut dire que localement, vous pouvez écrire votre fonction. Je vais tout effacer. Comme un polynôme, donc vous avez votre fonction x, ici, que écrit x de v. Localement, vous pouvez l'écrire comme un polynôme au voisinage de u, plus une erreur. Et qu'est-ce que vous dit cette définition ? Elle vous dit l'erreur, elle va être plus petite, le module de l'erreur, que cette constante u moins v à la puissance alpha. D'accord ? Maintenant, vous calculez le produit scalaire, c'est-à-dire le coefficient d'ondelette. Le coefficient d'ondelette, ça va être, excusez-moi, c'est un polynôme, ça dépend de v. Qu'est-ce que j'ai écrit là ? C'est un polynôme en v, pardon, qui dépend du point u. D'accord ? Ça, c'est le polynôme PU de V. Ça, c'est l'axe de V. Et localement, vous approximez votre fonction par un polynôme, mais qui dépend du point. Donc, vous écrivez ceci. Et alors, si je regarde ce produit scalaire, je vais avoir le produit scalaire du polynôme avec l'ondelette plus l'erreur avec l'ondelette. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la partie polynomiale, l'ondelette, elle ne la voit pas. Ça, ça va valoir zéro. Pourquoi ? À cause des moments nuls. Si une ondelette est orthogonale à un monôme, pour n'importe quel cas, si vous dilatez l'ondelette, vous faites un changement de variable là-dessus, vous pouvez dilater ceci, c'est-à-dire vous faites un changement de variable T' égale ST, autrement dit T égale T' sur S, et bien vous vérifiez, du coup, alors vous allez avoir aussi un DT, ça va vous donner un DT sur S, ça vaut toujours 0, et donc ce que ça vous dit, c'est que l'intégrale de psi de T sur S fois T puissance K DT, ça vaut toujours 0. Donc autrement dit, si vous dilatez l'ondelette, elle est toujours orthogonale avec un polynôme. Si vous translatez l'ondelette, vous vérifiez, ça va être toujours orthogonal à un polynôme. Donc, il est bien vrai que si j'ai une ondelette qui est dilatée, translatée, si je l'intègre contre un polynôme qui est de degré plus petit que alpha, ça vaut zéro. Donc ça, je vous le laisse vérifier bien en détail, mais ça revient simplement au fait que si vous avez la première propriété, comme la translation d'un polynôme, c'est toujours un polynôme, la dilatation d'un polynôme, c'est toujours un polynôme, et bien si vous appliquez votre propriété sur votre ondelette, vous allez vous rendre compte que n'importe quelle translation, dilatation de l'ondelette est bien orthogonale au polynôme. Donc qu'est-ce qui me reste ici ? Si je prends le module, comme l'ondelette ne voit pas le polynôme, il ne me reste que le module de l'erreur. Alors maintenant, on va regarder le module de l'erreur. Ça, c'est le module de l'intégrale de epsilon de V fois mon ondelette, c'est-à-dire 1 sur racine de S, psi de V moins U sur S, et puis dV ici. Maintenant, je peux toujours dire que le module d'une intégrale, c'est plus petit que l'intégrale du module. Autrement dit, je prends le module à l'intérieur. Et là, j'ai une inégalité. Et maintenant, ce que je sais, c'est que le module d'epsilon de V, c'est plus petit que ceci. Donc, j'ai la constante Cu, U moins V à la puissance alpha, et puis 1 sur racine de S, psi de V moins U sur S dV. Maintenant, vous faites un simple changement de variable, qui est V' est égal à U moins V. Et qu'est-ce que vous allez avoir? Ou V moins U, c'est pareil. Ben, vous allez avoir ici votre constante. Là, vous allez avoir le V prime, puissance alpha. Là, vous allez vous retrouver avec... Alors, excusez-moi, faire V moins U sur S. Donc, si je fais ça, V moins U, je vais avoir un S puissance alpha qui va sortir ici. Et puis, là, je vais avoir un dV prime, ça va me donner un S. J'ai 1 sur racine de S, ça va me faire un racine de S ici. Et puis, je vais avoir un psi de V prime, dV prime. Et là, ce que vous récupérez, c'est votre constante, S à la puissance alpha plus 1,5, fois une autre constante, qui est cette intégrale, qui vaut une certaine valeur, dV prime, et ça, c'est ma constante bêta dont je vous parlais. Et donc, on retrouve exactement ce résultat ici. Donc, vous voyez, l'idée, en fait, c'est que j'ai regardé ce qui se passait ici à différentes échelles, j'ai regardé les variations à différentes échelles, et si la fonction est régulière, ben, les variations à toute petite échelle vont devenir très vite petites. Et à quelle vitesse elles vont devenir petites? Et ben, exactement avec l'exposant alpha qui mesure la régularité de la fonction. Autrement dit, encore une fois, la régularité de la fonction, vous pouvez l'observer en la dilatant localement. Alors, ça va être très important parce que très vite, ces coefficients, comme je le disais, ils vont devenir négligeables. Alors maintenant, je vais faire le lien avec ce dont j'ai parlé au cours dernier, au cours d'avant, c'est-à-dire ces histoires d'approximation dans des bases. Là, pour l'instant, j'ai une transformée qui a été définie pour tout U, pour tout S. Pour vraiment avoir une représentation parcimonieuse, il va me falloir construire une base orthogonale. Et là, j'en suis très loin. J'en suis très loin parce que je suis parti d'une fonction qui a une seule variable et je me suis retrouvé avec une transformée en ondelettes qui a maintenant deux variables, U et S. Imaginez, c'est comme si vous faites du traitement du signal monodimensionnel et ensuite vous retrouvez à faire du traitement d'image parce que vous avez un énorme plan avec plein de coefficients. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est regarder dans ce plan, encore une fois, ce plan c'est quoi? C'est tous les produits scalaires avec toutes les ondelettes, toutes les échelles, toutes les positions. Il va falloir voir de quoi j'ai vraiment besoin pour ne pas perdre d'informations sur ma fonction x. D'accord? Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de discrétiser les échelles. Ce n'est pas la peine de prendre toutes les échelles, et ça, en fait, on s'en rend très vite compte quand on regarde dans le domaine de Fourier. Vous regardez dans le domaine de Fourier, qu'est-ce qu'on fait quand on prend toutes les échelles? C'est-à-dire qu'on considère toutes les dilatations de mon ondelette, comme ceci, et voyez bien, ça va être super redondant. Pas la peine de toutes les prendre. Normalement, il suffit d'en prendre quelques-uns de manière à bien couvrir tout l'axe des fréquences. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, oui, il suffit d'en prendre quelques-uns, et en fait, en particulier, on va prendre des échelles de 2. Donc on va prendre des échelles qui vont être simplement des puissances de 2, ce sera plus facile ici. En traitement de son, on prend des échelles intermédiaires, mais ici, je vais faire simple, je vais prendre juste pour l'instant, des puissances de 2. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec les puissances de 2, ça suffit, et notamment, on peut reconstruire le signal et avoir quelque chose de complètement stable. Donc maintenant, je vais considérer des ondelettes, mais simplement avec des échelles S dilatées par des puissances de 2. c'est-à-dire 1 sur racine de 2 puissance j, psi de u sur 2 puissance j. D'accord ? Et la question, c'est est-ce qu'avec ça, j'ai suffisamment d'informations ? Autrement dit, si je considère que ces produits scalaires, pour n'importe quelle position u, et alors, rappelez-vous, ces produits scalaires, je l'ai effacé, mais on peut l'écrire comme une convolution de x avec l'ondelette ici dilatée par 2 puissance j pris au point u. Est-ce que ça, c'est suffisant pour pouvoir reconstruire x si je connais tous ces coefficients pour n'importe quel j ou pour n'importe quel u? D'accord ? Et en particulier, j'aimerais bien avoir quelque chose de stable, c'est-à-dire que l'amplitude de ces coefficients soit de l'ordre de l'amplitude de x, de manière à ne pas avoir d'instabilité. Alors, ça se démontre facilement si vous imposez la condition suivante. L'idée, c'est la chose suivante. Si vous regardez dans le domaine de Fourier, d'accord, ceci, si je le vois comme une fonction x, j de u, d'accord, qui est la composante du signal à l'échelle j, ben c'est une convolution, donc je peux regarder sa transformée de Fourier, parce que ça va être plus simple. La transformée de Fourier de cette fonction, ça va être le produit de la transformée de Fourier de x avec la transformée de Fourier de l'ondelette. Mais ce qu'on a vu, c'est que la transformée de Fourier de l'ondelette, ça va être la même chose, mais dilatée par le facteur inverse. Ça va être l'ondelette fois une racine de 2 puissance j. D'accord ? À quelles conditions ? La question que je pose, c'est à quelles conditions, à partir de ces coefficients-là, je peux reconstruire x ? Mais reconstruire x, c'est la même chose que reconstruire sa transformée de Fourier, parce que à partir de la transformée de Fourier, je sais très bien que je peux récupérer x. Qu'est-ce que je fais là ? Ce que je fais là, c'est un filtrage. Donc, si je reviens sur cette image ici, la seule différence, c'est que maintenant, j'ai restreint mes échelles. Donc, si mon ondelette, c'était quelque chose comme ça, eh bien, quand je la dilate par un facteur 2 puissance j, je vais avoir quelques ondelettes comme ceci et comme ceci. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je prends ces filtres et je les multiplie par la transformée de Fourier de x, qui est quelque chose comme ceci, x de oméga. Je vais juste considérer les fréquences positives, parce que les fréquences négatives... Alors, oui, je ne l'ai peut-être pas insisté là-dessus, mais quand vous avez une fonction qui est réelle, ça, c'est équivalent au fait, ça, je vous laisse le vérifier, que la transformée de Fourier a une symétrie hermitienne. Autrement dit, les fréquences négatives sont égales à complexe conjugué en oméga. Donc, autrement dit, quand vous avez une fonction réelle, les fréquences négatives, c'est la même chose que les fréquences positives à un complexe conjugué près. Donc, question, à quelles conditions est-ce que si je connais le produit ici pour chacun des j, je vais pouvoir récupérer la valeur de x de oméga? Ce qu'il va falloir, c'est que vous n'ayez pas de trou. Ce qu'il va falloir, c'est que à partir de ce produit, vous soyez capable de récupérer x de oméga pour tout oméga. Donc, que quel que soit oméga, il existe au moins une ondelette pour laquelle la valeur de la transformée de Fourier de l'ondelette ne soit pas égale à zéro. Ce que vous voulez éviter, c'est ce genre de choses, où vous avez, par exemple, une ondelette qui serait comme ça. Vous la dilatez par un facteur de puissance j, ça vous donne ça. Si vous êtes dans une situation comme ça, il n'y a rien à faire, vous n'allez jamais récupérer l'information de x dans ce domaine de fréquence-là, parce que le produit, ça vaut toujours zéro. Si tout est couvert, vous n'allez pas être dans cette situation. Donc la condition qu'on va mettre, qui est la condition qu'on appelle de Littlewood-Pelley, c'est que la somme des transformées de Fourier des ondelettes à toutes les échelles, comme ceci, soit égale à 1. Pour toutes fréquence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, ce type de condition, en maths, c'est apparu dans les années 30, en fait. Donc, c'est encore avant, pour d'autres raisons, mais qui étaient très liées au phénomène de mesure de régularité. Mais, donc, je ne vais pas aller là-dessus. Ça, c'est la branche mathématique d'analyse. C'est, d'une certaine manière, la naissance de tout ce programme d'analyse harmonique autour de Fourier, mais avec un regard un peu différent de Fourier, c'est-à-dire en essayant de localiser les choses spatialement. Donc c'est apparu dans les années 30. Et cette condition-là, ça implique que effectivement, non seulement on peut reconstruire X, et comment on va reconstruire X ? Eh bien, simplement en sommant sur toutes les échelles les coefficients d'ondelettes. Alors, les coefficients d'ondelettes, ici, je les ai appelés X, J de U, et on va le faire simplement avec une convolution, à nouveau avec une ondelette. Donc, si vous avez en un point U, vous allez avoir que X de U s'obtient comme ceci. Et la deuxième chose que vous allez avoir, c'est que la A, excusez-moi, il y a un 2 puissance moins J ici. Donc, il y a un facteur de normalisation. Ça, c'est la somme sur toutes les échelles. Et vous allez aussi avoir que la norme de X au carré, c'est la somme sur toutes les échelles de 2 puissance moins j, la norme de coefficient d'ondelette au carré. Autrement dit, vous avez une forme de conservation d'énergie, donc les choses vont être bien stables. Alors, comment est-ce que ceci se démontre? En fait, ce n'est pas compliqué, vous reprenez ceci. Si je calcule cette quantité-là en Fourier, ça va être somme sur J de 2 puissance moins J. Je vais calculer la transformée de Fourier de chacune de ces composantes. Ben, elle est ici, c'est X de oméga. C'est la transformée de Fourier de XJ fois racine de 2 puissance J fois psi de 2 puissance J oméga. Et puis, je dois le multiplier par la transformée de Fourier de l'ondelette. Ça va être la même chose. Donc, c'est comme si je prenais ceci au carré. Donc, ça va être 2 puissance J. Et là, je vais avoir ceci au carré, parce qu'il faut le complexe conjugué. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez? Vous avez un 2 puissance J, mais vous avez un 2 puissance moins J, donc les deux vont disparaître. Et là, vous avez exactement X de oméga, que je peux sortir de la somme, fois la somme des coefficients des ondelettes au carré. Et la condition du théorème, ça me dit, ça vaut 1. Donc, vous récupérez exactement X d'oméga. Donc, j'ai démontré que la transformée de Fourier de ceci, c'est égal à la transformée de Fourier de ceci. Donc, si je reviens en faisant une transformée de Fourier inverse, j'obtiens cette égalité. Donc, le point qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, cette condition-là, tout ce qu'elle a permis de garantir, c'est que si vous prenez ces fonctions qui sont les psi de 2 puissance j oméga, si vous les sommez au carré, vous allez obtenir 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas de trou entre les deux. Ici, vous sommez ces fonctions, et vous voyez, ça, vous n'avez pas 1, ici vous avez 0. Ça vous dit simplement, si je somme mes filtres au carré, eh bien, je n'ai pas de trou. Donc pour toute fréquence, ça me donne 1. Non seulement je n'ai pas de trou, mais c'est parfait, ça bouge pas, c'est égal à 1. Et le fait que ça ne bouge pas, en particulier, vous allez avoir ça. Alors, pourquoi est-ce que vous avez ça? Ça s'obtient avec la formule de Plancherel. Si je vous l'écris en Fourier, la transformée de Fourier, la norme d'une fonction au carré, alors, la formule de Plancherel, je vous la rappelle, la norme d'une fonction au carré, c'est quoi? C'est l'intégrale de cette fonction au carré. Et ça, c'est aussi égal à 1 sur 2 pi près à l'intégrale de la transformée de Fourier au carré. Ça, c'est la propriété. Alors, vous avez toutes ces propriétés sur la transformée de Fourier. Bon, ça, une question de pratique. Je reviendrai souvent sur toutes ces choses-là. Donc, vous avez cette égalité-là. Donc, pour démontrer ça, ben, en fait, on fait la même chose. On passe en Fourier. Et je vous laisse le vérifier. Vous passez en Fourier exactement de la même manière. Vous calculez cette quantité et vous passez ici en Fourier, x de j Donc, autrement dit, comment est-ce qu'on va démontrer ça? La première chose qu'on va démontrer, c'est que x de oméga au carré, eh bien, ça va être la somme sur J . Ça, c'est la première chose à montrer. Vous allez montrer exactement comme ça. Et puis ensuite, vous intégrez de chaque côté et vous allez obtenir votre propriété. D'accord ? Donc, je vous laisse le regarder. Le point ici, c'est que qu'est-ce qu'on a réussi à obtenir comme résultat pour pouvoir avancer ? C'est qu'on pouvait échantillonner les échelles et on a suffisamment d'informations. Donc maintenant, si je regarde ceci, c'est-à-dire que les échelles de puissance J, j'ai suffisamment d'informations pour reconstruire. Maintenant, pour obtenir une base orthogonale, il y a une étape de plus. L'étape de plus, ça va être d'échantillonner la position U. Vous n'avez pas besoin de toutes les positions. Si vous prenez une ondelette qui a une tête comme ça, vous la translatez un tout petit peu, ben vous obtenez une autre ondelette qui a pratiquement la même position. Et donc, vous sentez bien que l'information va être à nouveau très redondante. Si vous imaginez maintenant comment échantillonner ces ondelettes, d'accord ? C'est-à-dire comment bouger les ondelettes, et idéalement, on aimerait avoir une base orthogonale, donc on aimerait que les produits scalaires soient nuls, donc que les ondelettes apportent des informations différentes l'une par rapport à l'autre. Ben, vous savez que le support maintenant de votre ondelette est proportionnel à 2 puissance J. Donc une petite ondelette va être beaucoup plus petite comme ceci, une grande ondelette va être comme ça. Ben, l'idée, c'est d'abord, vous ne voulez pas perdre d'informations, donc vous ne voulez pas laisser de trous. Si vous translatez votre ondelette comme ça, vous n'allez jamais savoir ce qui s'est passé ici, dans votre signal, aux hautes fréquences. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est de translater l'ondelette pratiquement par son support. Et donc, les ondelettes qui sont petites, on va les translater par des petites quantités. Et les ondelettes qui sont grandes, eh ben, on va les translater par quantités qui sont plus grandes. Ben, quand on voit ça, on se dit, c'est quoi le facteur de translation ? Ça va être précisément l'échelle. C'est-à-dire que le support, c'est 2 puissance J. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va translater l'ondelette par un facteur qui est proportionnel à 2 puissance J, où N, c'est un entier ici. Donc, l'idée, c'est que quand mes ondelettes, elles sont grandes, je vais avoir des translations qui sont très grandes, et puis au fur et à mesure que mes ondelettes deviennent petites, eh bien, je les translate de plus en plus finement, de manière à m'assurer que je vais bien couvrir le support, et avec ça, j'espère obtenir quelque chose qui en plus est complet, c'est-à-dire qui va bien ne pas perdre d'informations. Alors, ça, c'est la dernière étape, et c'est effectivement ça qui amène à ces bases orthogonales d'ondelettes. Donc là, je vais passer ici. Donc là, ce que je fais, c'est que je vous présente un peu un panorama pour avoir les grandes idées. Le but étant, ensuite, à partir de... Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours, c'est les vacances. Et quand on reviendra, on repassera sur les problématiques de classification avec les support vector machines et les classifications à noyaux. Donc là, ce que j'essaye simplement de faire, c'est vous introduire d'où viennent ces notions de parcimonie et pourquoi on a besoin de filtres et pourquoi on a besoin de localiser les choses. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que les ondelettes, elles étaient dilatées par un facteur de puissance J, mais maintenant, la translation, je vais aussi les translater par un facteur U qui est proportionnel à 2 puissance J. Donc, autrement dit, mon ondelette, ça va être 1 sur racine de 2 puissance J, psi, le dénominateur, c'est l'échelle, et je vais être en U, et la position, pardon, en V, et la position U, c'est 2 puissance Jn. Et donc, c'est pour n'importe quel J et pour n'importe quel N, a priori. Et la question, c'est ce que ça me permet de reconstruire mon signal. Autrement dit, est-ce que si je connais que les coefficients d'ondelette, c'est-à-dire ces produits scalaires, alors ces fonctions-là, je vais les appeler pour simplifier la notation psi jn. J, c'est l'index de l'échelle, n, c'est l'index de la position. Donc autrement dit, est-ce que à partir de ça, je peux reconstruire, si je les connais tous, est-ce que je peux reconstruire x ? Évidemment, l'inverse est évident. À partir de x, je peux les calculer. Est-ce que je peux revenir ? Ben là, vous avez une famille de produits scalaires avec une famille, ici, si je suis dans l'espace L2, donc de dimension infinie, je vais en avoir un nombre infini. Si je suis en dimension finie, le nombre d'ondelettes va être fini. La question, c'est est-ce que je peux revenir ? Ça revient à poser la question, est-ce que les ondelettes psi jn sont-elles une base ? Alors, on pourrait définir quelque chose de redondante, mais si j'impose que je n'ai pas de redondance parce que je veux quelque chose de parcimonieux, la question, c'est est-ce que j'ai une base de mon espace ? Et en particulier, je peux poser la question, est-ce que même c'est une base qui est orthogonale ? Comme ça, je n'ai absolument pas de redondance. D'accord ? Ça, c'est une autre manière de poser la question, est-ce que je peux reconstruire un signal à partir des produits scalaires ? Et c'est là que tout ce sujet a pris un tournant, c'est que Yves Meyer, donc ça c'était en 1986, s'est rendu compte, en fait tout le monde était persuadé que ce n'était pas possible. Tout le monde était persuadé que ce n'était pas possible, notamment parce qu'il y avait un théorème qui disait qu'on ne pouvait pas construire des bases de ce style si on faisait quelque chose d'un petit peu différent, qu'on appelle une transformée de Fourier à fenêtre. J'expliquerai ça un jour, mais il y avait beaucoup d'indicateurs qui disaient que ce n'était pas possible. Alors, en même temps, il y avait des éléments qui allaient dans l'autre sens. En particulier, en 1909, il y a un mathématicien qui s'appelle Haar qui avait démontré qu'on pouvait construire des bases comme ça, mais qui étaient très, très particulières. Les bases de Haar. Donc là, on remonte encore plus dans le temps, 1909, Haar, et avait observé la chose suivante. Si vous prenez la fonction psi de t, qui est tout bêtement la fonction qui vaut entre 0 et 1,5 moins 1, et qui vaut 1 entre 1,5 et 1. Donc ça, c'est ma fonction psi de t. Donc à support entre 0 et 1. Si maintenant vous prenez cette fonction, que vous la dilatez et que vous la translatez, c'est-à-dire vous faites exactement ça, eh bien vous avez une base orthonormale. Alors, pourquoi est-ce que c'est vrai ? Voyez que si vous dilatez votre fonction, eh bien, elle va être, ça va avoir la même tête, sauf, aïe, elle va être entre 0 et 2 puissance j, d'accord ? Ça va avoir 2 puissance j moins 1, elle va être comme ceci. Donc, si vous prenez cette fonction, elle a un support de taille 2 puissance j, si vous la translatez de 2 puissance j, les supports entre, si je fixe j, les supports pour différents n, ils vont être disjoints, donc les produits scalaires valent 0. Si, par contre, vous prenez une fonction qui est plus petite, eh bien, la fonction qui est plus petite, elle va être comme ça. Je vais la montrer peut-être dans une autre couleur. Ça, c'est une fonction de Haar. À une échelle plus petite, si vous la translatez un peu, elle peut se retrouver ici, par exemple. Mais vous voyez que le produit scalaire entre ces deux fonctions, il vaut 0. Pourquoi ? Parce que celle-ci, elle est constante sur l'intervalle où celle-ci varie, et celle-ci, elle est d'intégrale 0. Donc le produit scalaire des deux, ça vaut 0. Donc vous vérifiez facilement que toutes ces fonctions-là, elles sont toutes orthogonales les unes par rapport aux autres. Il ne reste plus qu'à montrer, ça évidemment c'est l'aspect le plus délicat de la démonstration, c'est de démontrer, je vais me casser la gueule. Oups, et je remonte. C'est de démontrer que vous avez une base. Alors, démontrer que vous avez une base, une des manières de le faire, on va se placer dans un cas un peu plus simple, c'est pareil en fait. Ici, je vais me placer avec un signal qui est entre 0 et 1. D'accord ? Et je vais juste regarder la reconstruction de ma fonction sur 0, 1. Dans ce cas-là, eh ben, le problème... Alors, les ondelettes, dans ce cas-là de R, je vais juste les déplacer sur l'intervalle 0, 1. Donc, du coup, la position de l'ondelette, de puissance Jn, ça va être compris entre 0 et 1. D'accord ? Donc, combien d'entiers n je vais prendre ? Eh bien, n va être entre 0 et 2 puissance moins j, sachant que j va être toujours plus petit que 0 ici. Je vais toujours prendre des ondelettes dont le support est plus petit que ceci, c'est-à-dire qui ont des échelles plus petites que 1. Donc, la question, c'est est-ce que si je somme sur toutes les échelles qui vont aller de moins l'infini potentiellement à 0, alors je ne veux pas avoir de moins l'infini, je vais mettre un j ici à 0, et puis si je somme sur toutes les positions qui vont de 0 à 2 puissance moins j moins 1, si, comme j'ai une base qui est orthogonale, je vous vérifie qu'elle est de norme 1, a priori le bon candidat pour le reconstruire, c'est ça, c'est les produits scalaires avec mes ondelettes fois ça. Et la question, c'est est-ce que ça, ça va être égal à ça ? Ben pour ça, ce que vous voulez, c'est que la norme de la différence tende vers 0 quand le nombre d'échelles que vous prenez tend vers l'infini. Alors, pourquoi est-ce que c'est vrai ? C'est vrai parce que, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous faites une approximation avec une base de R ? Ça revient à prendre la fonction et, en fait, vous l'approximez par des fonctions qui sont constantes par morceau. Si vous limitez l'échelle à un j, c'est-à-dire que le support de l'ondelette, ça va être 2 puissance j, en particulier, elle va être constante sur des intervalles qui vont être 2 puissance j moins 1. Puisque toutes les échelles de puissance j sont plus grandes que le 2 puissance grand j. Donc autrement dit, faire cette somme partielle, ça va revenir à faire une approximation de la fonction constante par morceau. Où les intervalles ici sont de l'ordre de puissance j ou de puissance j moins 1. Or, ce qu'on sait, c'est que si je fais une approximation d'une fonction par une fonction constante par morceau, si je laisse chacune de ces composantes devenir de plus en plus petite, ça va converger vers la fonction d'origine. Et c'est comme ça qu'on démontre que ça, ça a bien tendu vers zéro. Donc, ce qu'on voit apparaître là, c'est le fait qu'il y a en fait un lien. Ce que vous voyez, une fonction constante par morceau, c'est ce qu'on avait vu la fois d'avant, c'était comme une approximation, et puis on peut l'approximer par des échantillons comme ça. On voit apparaître un lien ici entre ces transformés à différentes échelles et des approximations comme ceci de la fonction à des échelles variables. Alors, j'ai dit R 1909, on aurait pu se bouger depuis 1909 pour en trouver d'autres. En fait, je le disais, tout le monde se disait, on ne peut pas en trouver d'autres. En tout cas, on peut. Le problème de la base de R, c'est qu'elle est discontinue. C'est-à-dire, vous aviez une fonction bien régulière et vous l'approximez par quelque chose qui est discontinu. La vraie question qui était derrière, c'était de se dire, est-ce que je peux avoir une jolie ondelette bien régulière et avoir une base orthogonale et à décroissance rapide et avoir une base orthonormale avec ça. Et c'est ça que la sagesse populaire, pour laquelle la sagesse populaire disait grosso modo, ça ne doit pas être possible. Donc c'est ce que Yves Meyer a essayé de démontrer, que ce n'était pas possible. Et donc comment est-ce que vous démontrez que quelque chose n'est pas faisable ? Eh bien vous, c'est en tout cas la stratégie qu'il a prise, et une approche par l'absurde, c'est-à-dire de se dire, je vais essayer de faire construire un contre-exemple au théorème que je veux démontrer, et en essayant de le construire, je vais voir pourquoi ce n'est pas possible de le construire, et donc je vais voir pourquoi, effectivement, il est impossible de construire des bases orthonormales d'ondelettes. Donc il a commencé à essayer, du coup, donc un contre-exemple de son théorème, c'était une base d'ondelettes régulière qui permettrait d'avoir une base orthonormale. Donc il a essayé d'en construire une, sachant pertinemment qu'il n'y arriverait pas. Et là, boum, il s'est rendu compte, si, c'est possible. C'est possible, et il a construit les premières bases orthonormales d'ondelettes. Donc, les bases de Meyer, la grosse différence avec les bases de Haar, c'est que ce sont des fonctions bien régulières, et comme il faut effectivement échantillonner les échelles en 2 puissance j, une des conditions qu'il va bien falloir avoir, c'est la condition de Littlewood-Pellet que je vous avais donnée, c'est-à-dire que la somme des coefficients en ondelettes au carré doit bien être égale à 1 en Fourier, c'est-à-dire que cette propriété, il va falloir qu'elle soit vraie, et ça, il la connaissait bien, Yves Meyer, puisque c'était quelqu'un qui travaillait en analyse harmonique, et en plus, il va falloir qu'elles soient toutes orthogonales les unes par rapport aux autres, et donc il a fait cette construction qui permet d'avoir toutes ces propriétés et d'obtenir ces bases orthonormes. Alors, le dernier... Alors, je vais faire maintenant le lien, parce qu'il me reste quelques minutes, je voudrais vous montrer des exemples. Le lien avec les représentations parcimonieuses. Donc maintenant, on va admettre qu'on peut en construire plein des bases d'ondelettes comme ceci. Et je vais juste faire peut-être un commentaire. Un commentaire qui est en lien avec les histoires de réseaux de neurones. Avant de vous montrer les images. C'est que, en fait, derrière ces bases d'ondelettes, il y a des filtres. Et on va le voir pour la base de Haar. Si maintenant je prends un signal qui est discret, donc votre signal, même chose, simplement, je l'ai déjà échantillonné au départ, donc je pars, par exemple, une image d'un signal discret. Et que je veux calculer les coefficients dans une base de Haar. Les coefficients dans une base de Haar, ça consiste à faire des produits scalaires avec ces choses-là, c'est-à-dire, grosso modo, je prends la moyenne sur un intervalle et je soustrais la moyenne avec un autre intervalle. Comment on peut faire ça? On peut calculer ces coefficients d'ondelettes de façon très rapide avec un algorithme en cascade. Le principe de l'algorithme en cascade, ça consiste à dire, si je prends deux nombres A et B, eh bien, je peux les diviser en deux, c'est comme si vous aviez un point dans un plan. Je peux les représenter par A plus B sur racine de 2 et A moins B sur racine de 2. Alors ça, c'est un changement de base orthogonale dans un plan de dimension. Ça consiste à passer de cette base à celle-ci. D'accord ? À partir de ça, vous revenez ici et inversement. Donc, vous avez deux nombres, vous pouvez les remplacer par leur moyenne et par leur différence. La base de Haar, c'est ce que ça fait, en fait. Ça consiste à calculer des moyennes et des différences à toutes les échelles. Donc, vous partez d'un signal comme ça, vous commencez par grouper les coefficients par deux. D'accord ? Et donc, je vais représenter mes coefficients ici un peu mieux. Je vais représenter le signal à nouveau comme ceci. Donc je prends mes deux premiers coefficients et je vais représenter mes deux premiers coefficients ici par leur moyenne, qui est ici, et puis par leur différence, qui est ici. Je prends les deux coefficients suivants, je les représente par leur moyenne et par leur différence. Puis les deux suivants, moyenne, différence, etc. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, donc là, c'est la première étape Et là, ce que j'ai fait, calculer la moyenne, c'est la même chose. Et vous voyez, vous avez une moyenne tous les paires de coefficients. Une moyenne, c'est un filtrage passe-bas. J'ai pris un coefficient sur deux, ça revient à sous-échantillonner. Donc, et la différence, c'est un filtrage passe-haut, ça va revenir à sous-échantillonner. Je ne vais pas aller dans les détails, juste vous donner une vision pour faire le lien avec quelque chose qu'on verra bien plus tard, qui va être les réseaux de neurones profonds. Une fois que vous avez fait ces moyennes, si maintenant vous voulez passer à l'échelle d'après, ben vous prenez les moyennes ici et vous calculez les moyennes des moyennes. Donc je prends la moyenne de tout ça. Ça va être la même chose que de prendre la moyenne sur quatre coefficients. Ces deux moyennes, ici, je peux à nouveau les moyenner. Mais si je les moyenne pour ne pas perdre d'informations, il va falloir que je connaisse leurs différences. Donc je moyenne ces paires de coefficients. Les moyennes, ici, je vais à nouveau les moyenner et calculer leurs différences. Autrement dit, qu'est-ce que je fais ? C'est que je prends la sortie ici, je remoyenne, ça c'est le moyennage, je calcule un coefficient sur deux et je refais la différence. Et puis, en fait, on cascade ceci. Alors, l'idée que je veux illustrer simplement en parlant de ça, c'est quoi ? C'est que quand vous voulez calculer les coefficients d'ondelettes, ce qui va apparaître numériquement, c'est des filtres. C'est des filtres qui vont, en quelque sorte, successivement moyenner le signal, puis le sous-échantillonner, moyenner, sous-échantillonner, et l'information que vous avez perdue en moyennant, vous allez la récupérer avec des filtres qui calculent des différences. Et quand vous avez beaucoup moyenné et calculé une différence, eh bien vous allez obtenir un coefficient d'ondelette, c'est-à-dire quelque chose qui calcule une variation à grande échelle. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, les ondelettes, pour les construire simplement, il fallait oublier l'ondelette, mais simplement regarder les filtres. Si vous connaissez les filtres, on peut lui associer une ondelette, mais inversement, si vous voulez trouver des ondelettes orthogonales, c'est beaucoup plus facile de commencer par faire un design de filtre qui satisfait un certain nombre de propriétés. Alors, quel est le lien par rapport à ces histoires de réseaux de neurones ? Ce que vous allez voir, et donc ça, ce sera, j'évoquerai ça un tout petit peu à la fin, mais ce sera probablement plutôt l'année prochaine, pour ceux qui sont patients. Ce que vous allez voir, c'est que, en fait, c'est quoi un réseau de neurones profond ? C'est des cascades de filtres. Et le point de vue d'un réseau de neurones, c'est justement d'apprendre les filtres. Il va cascader les filtres, donc la sortie, ça va être le résultat d'une cascade, mais ce qui va être important, c'est les filtres. Et ce dont on s'est rendu compte dans ces années 90 par là, c'est que, en fait, tout ça, donc là-dessus j'avais beaucoup travaillé, ça peut se caractériser avec les filtres, on peut trouver toutes les bases orthogonales en regardant simplement les filtres. Donc on peut oublier d'une certaine manière toutes ces fonctions de L2 d'une fonction continue. Il suffit de refaire les filtres. Sauf que si maintenant vous voulez comprendre la nature des coefficients qui sont produits, ici, si vous regardez simplement en termes algorithmiques de filtres, ce n'est pas facile parce que vous avez des séries de cascades. Là, qu'est-ce que vous avez envie de regarder ? Vous avez envie de regarder le filtre équivalent à toute cette opération. C'est-à-dire là, vous avez fait toute une série de cascades et le filtre équivalent, c'est l'ondelette. C'est pour ça que quand on regarde ces espèces de réseaux qui sont des cascades d'énormément d'opérations, ce qu'on a envie à la fin, c'est de comprendre okay, qu'est-ce qui fait globalement le réseau ? Pour regarder ce qu'il fait globalement, il faut tout cascader. Et quand on commence à cascader, on a envie de regarder l'espèce de filtre équivalent au réseau. Alors, ça va être quoi l'énorme différence entre tout ça et les réseaux de neurones ? Ce qui est très différent dans les réseaux de neurones, c'est que vous avez des non-linéarités au passage. Si vous n'aviez pas de non-linéarité, tout ça, ce serait un cas particulier de ce qu'on appelle des filtres, des bandes filtres. On appelle ça en anglais multi-rate, parce qu'il y a des sous-échantillonnages. mais c'est des cascades de filtres les uns derrière les autres avec des convolutions. Simplement, dans les réseaux de neurones, vous avez des non-linéarités qu'on met là, et puis les filtres, ils sont un peu plus compliqués que ça, puis à chaque fois, on met des non-linéarités, donc tout devient beaucoup plus compliqué. Mais disons que la version simple de tout ça, c'est des cascades, et c'est de regarder les filtres équivalents. Et donc, c'est là qu'il y a un lien qui est important, et d'une certaine manière, bah, finalement, les réseaux de neurones, tout ce qu'on fait là-dessus, on se rend bien compte, ce qui est important, c'est directement les filtres, c'est eux qu'on veut optimiser, et toute la difficulté, ensuite, au niveau des maths, c'est de faire le retour pour regarder la structure équivalente. Alors, je suis en retard, et il y a une très belle conférence juste après qui va être vraiment sur les challenges, je voudrais juste terminer avec le fameux lien avec la sparsité, vous montrer des images. Le fameux lien avec la sparsité, c'est la chose suivante. C'est que maintenant, j'exagère, si vous prenez un signal qui est régulier comme ceci, avec des singularités, ben, si vous mettez vos ondelettes, une petite ondelette très fine ici, dans une partie régulière, comme localement la fonction elle est très régulière, Lipschitz alpha pour un grand alpha, le produit scalaire, il va décroître comme l'échelle, c'est-à-dire 2 puissance j fois alpha plus 1,5, et donc il va devenir tout petit quand l'échelle de l'ondelette va être toute petite. Donc grosso modo, si je regarde les coefficients d'ondelette à une échelle 2 puissance j, eh ben les coefficients partout ici, ils vont être quasiment négligeables, quasiment nuls. Et où est-ce que vous allez avoir un grand coefficient? Ici, parce que là, vous avez une singularité, le alpha, il vaut 0 ou quasiment 0, et donc là, vous allez avoir des grands coefficients. Combien de coefficients vous allez avoir? Eh ben, vous avez votre singularité, elle est ici. Autant que d'ondelettes qui vont couvrir ce point ici, T0. Mais comme les ondelettes, elles sont translatées de 2 puissance J, que le support de l'ondelette, c'est K fois 2 puissance J, le nombre de coefficients ici, c'est une constante, K. Dans le cas de l'ondelette de Haar, le rapport, c'est 2 puissance J, donc il y a un seul grand coefficient. Et puis ensuite, vous en allez avoir des tout petits, négligeables, jusqu'à la singularité suivante. Et donc, vous allez avoir des singularités que là où il y a des des grands coefficients que là où il y a des singularités. C'est-à-dire, vous allez avoir quelque chose de très parcimonieux si votre signal est régulier par morceau. D'accord ? Et pensez-y, quand vous allez garder les grands coefficients, ça c'est la stratégie d'approximation non linéaire, eh bien, c'est équivalent à garder les coefficients qui sont près des singularités. Donc ça va être la même chose que de faire un échantillonnage adaptatif. C'est-à-dire, on va garder beaucoup de coefficients ici, près des singularités, parce que c'est les grands coefficients d'ondelette. Et ici, on ne va quasiment pas en garder. Lesquels on va garder? On va garder ceux qui correspondent à des échelles de puissance J très grandes, c'est-à-dire des ondelettes qui bougent très lentement. Celles-là, on va les garder pour capturer ces variations de grandes échelles. Et donc, c'est comme si dans les zones régulières, on prenait très peu de coefficients, et dans les zones irrégulières, on prend beaucoup de coefficients. Donc, je vais vous montrer maintenant ce que ce genre de choses donne. Alors, ça va comme ça, ou je peux mieux le faire? J'ai tellement de craie sur mon truc que ça me... Voilà. Super. Alors, ce que je montre là-haut, c'est l'approximation d'une fonction en Fourier. Donc, en haut, vous avez la fonction, vous devriez lire x et non pas f, là, en l'occurrence, c'est une fonction. Et cette fonction, elle est approximée avec m coefficient Fourier en gardant que les basses fréquences. Et ça, c'est la fonction que vous voyez juste au-dessous. Et donc, autrement dit, on voit que la fonction, évidemment, elle est plus régulière, puis on voit ces phénomènes oscillants qu'on appelle des phénomènes de Gibbs, parce qu'on a filtré avec un filtre oscillant, enlever les hautes fréquences, c'est la même chose que de filtrer, et on introduit beaucoup d'erreurs où, eh bien, évidemment, près des singularités. Ça, c'est la même chose sur une image. Vous prenez votre image et vous faites une approximation en Fourier. Parce que vous obtenez, c'est l'image à droite, et deux choses on voit apparaître. D'abord, l'image à droite est plus floue, bien sûr, puisque vous avez enlevé les hautes fréquences, et on voit apparaître tous ces phénomènes oscillatoires que sont les phénomènes de Gibbs, c'est-à-dire les oscillations, parce que vous êtes passé de l'image de gauche à l'image de droite, avec une convolution, un filtrage, qui était très oscillant, et donc ça produit ces oscillations près des singularités. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Et donc la réponse, si vous pensez à une image comme celle de gauche, c'est de dire, il va falloir faire un échantillonnage adaptatif, en quelque sorte, au lieu de prendre M coefficients en les échantillonnant uniformément, en filtrant. Et oui, mais vous voyez, à gauche, ça va être vraiment compliqué de savoir où est-ce qu'il va falloir les mettre. Donc l'idée, c'est de passer en ondelettes. Donc ça, ce que vous voyez à gauche, c'est typiquement une ondelette. Alors ça, ce n'est pas des ondelettes de Meyer, c'est des ondelettes de spleen cubique. C'est des ondelettes qui vont donner des bases orthogonales, d'accord? Vous les voyez à gauche ici, et à droite, c'est la transformée de Fourier. Vous voyez, l'ondelette, c'est vraiment en Fourier comme un filtre passe-bande, puis ensuite qui va être dilaté. Vous voyez ici la dilatation de vos ondelettes à différentes échelles, et vous voyez comment ça va bien couvrir tout l'axe des fréquences. Alors, des ondelettes comme ça, il y a par exemple ici les ondelettes de Dobéchi. Comment elles ont été construites? À partir des filtres dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est à partir de ces filtres et de ces multirésolutions sur lesquels on avait travaillé avec Yves Meyer. À partir des filtres et de l'algorithme rapide obtenu avec ces filtres, vous obtenez, si vous choisissez bien les filtres, et ça, c'était tout le travail d'Ingrid Dobéchi, vous obtenez des ondelettes comme ça qui ont un support compact. Si vous les dilatez, translatez, vous obtenez des bases orthogonales. Donc des ondelettes, peut y en avoir plein. Grosso modo, vous choisissez vos filtres, vous avez des ondelettes qui correspondent. Et maintenant, voilà les coefficients d'ondelettes. Et qu'est-ce que vous voyez? En bas, vous avez la fonction, d'accord? Et la fonction est régulière par morceau. Et là, ce que je montre, c'est les coefficients d'ondelettes aux différentes échelles. Ça, c'est les échelles donc, qui sont très fine ici, plus grossière ici, et là, aux échelles plus grossières, vous allez translater les coefficients par 2 puissance j, donc les translations, il va y avoir moins de coefficients ici que ici. Sauf que là, regardez, les coefficients ici sont pratiquement tous nuls, on ne les voit pas. Les grands coefficients, ils sont là, ils sont près des singularités. Donc les seuls coefficients là, vous avez quelque chose comme 1000 coefficients, et sur les 1000 coefficients, vous en avez peut-être au plus une dizaine qui sont grands, près des singularités. L'échelle d'après, il y en a à peu près autant. Donc il y en a deux fois moins ici que ici, mais les grands coefficients, il y en a à peu près autant. Et là, vous voyez les grands coefficients. Donc l'idée, c'est de faire maintenant non pas de l'approximation linéaire qui consisterait à dire je ne garde que les coefficients aux grandes échelles, je fixe une approximation linéaire dont j'avais parlé. Ça consiste à dire, je choisis a priori quels sont les coefficients que je vais garder indépendamment du signal. Si je ne connais pas le signal, le mieux que je puisse faire, c'est de garder les grandes ondelettes qui vont capturer les basses fréquences du signal. Si maintenant je me permets de choisir les coefficients en fonction du signal, eh bien, comme je l'ai indiqué, on va choisir les grands coefficients et donc cela. Et si vous faites ça, voilà ce que vous avez. Donc, ici, en bas, c'est l'approximation linéaire, c'est-à-dire une approximation qui aurait consisté à choisir que les coefficients des ondelettes les plus grandes. Ici, vous avez la même une approximation, mais non linéaire, c'est-à-dire que cette fonction, elle est obtenue en gardant le même nombre de coefficients que celle-là, mais en choisissant quels sont les coefficients que vous allez garder, et donc en choisissant les grands coefficients. Pareil, ce type de stratégie non linéaire avec seuillage, vous allez les voir apparaître partout en apprentissage. parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de capturer le moins de coefficients possible, souvent aussi, qui capturent l'essence de l'information. Donc, la différence entre ces deux approximations, eh bien, c'est surtout l'erreur. Là, l'erreur est 10 fois plus petite que ici. Si vous calculez l'erreur comme étant la différence en norme L2 entre le signal d'origine et le signal approximé, et pourtant, vous avez utilisé autant de coefficients dans un cas que dans l'autre. Alors, ce n'est pas tout à fait juste si on dit qu'il y a autant d'informations, parce que dans un cas, je sais à l'avance où sont les coefficients, dans l'autre cas, je dois choisir les coefficients de fonction du signal, donc en termes de codage, je dois aussi coder la position des coefficients. Ça, c'est la même chose en plus grand, et vous voyez comment vous arrivez à vraiment bien reconstruire maintenant les singularités, ce que vous ne pouviez pas faire ici. Alors, en deux dimensions, des ondelettes, il en faut plusieurs. En fait, en deux dimensions, pour construire une base orthogonale, il faut 3 ondelettes qui, grosso modo, vont être sensibles aux contours verticaux, aux contours horizontaux et aux contours diagonaux. Donc, ce que vous visualisez ici, là, vous avez une image, c'est les coefficients d'ondelettes de l'image. Ça, c'est les échelles. Les échelles vont devenir ici, ça, c'est les échelles fines, ça, c'est les échelles les plus grossières. Et là, vous avez la première ondelette qui, grosso modo, extrait les contours verticaux aux différentes échelles. Un coefficient blanc, c'est un grand coefficient d'ondelette. Un coefficient gris, ça vaut 0. Quand votre ondelette est au milieu de l'image, comme l'image est constante, le coefficient il est quasiment nul. Puis là, vous avez des coefficients négatifs. Et là, vous avez la deuxième ondelette qui extrait les contours horizontaux. Et la troisième, elle extrait les coins, en quelque sorte, que vous voyez ici. Donc tout ça, je reviendrai dessus beaucoup plus en détail. Là, vous avez la même chose sur une image maintenant beaucoup plus complexe. Et vous voyez comment les grands coefficients, ils sont où ? Essentiellement près des contours, là où il y a des choses qui se passent. Et partout où votre image est régulière, par exemple sur les pôles, les coefficients, ils sont quasiment nuls. Si maintenant, vous faites un seuillage, en bas à droite, vous avez gardé les m plus grands coefficients, c'est-à-dire à peu près 1/16 des coefficients. Et vous voyez où est-ce qu'ils sont, les m plus grands coefficients ? Ils sont encore une fois près des contours, sauf là où il y a de la texture, où vous avez besoin de petits coefficients d'ondelettes pour les récupérer. À partir de ces coefficients, si vous reconstruisez, voilà ce que vous avez. Et là, vous avez utilisé autant de coefficients que ici. Mais ce que vous avez fait, c'est garder que les coefficients basse fréquence. Et alors là, vous voyez à nouveau, comme dans le cas de Fourier, vous avez éliminé les fines échelles. Vous avez donc créé une image floue avec des grosses erreurs près des contours. Si maintenant vous décidez d'adapter là où vous gardez les coefficients, eh bien vous arrivez à reconstruire beaucoup, beaucoup mieux les contours, les singularités, parce que vous avez précisément gardé des coefficients près des singularités. Et ça, c'est véritablement une grille adaptative. Vous avez gardé de l'information là où vous en avez besoin et vous avez tout éliminé là où la fonction était régulière, c'est-à-dire dans ces zones-là. Vous avez donc fait d'une certaine manière une réduction de dimensionnalité, mais adaptative par rapport au signal. Alors, pour terminer, je voudrais faire le lien avec le débruitage qu'a montré notamment Jean-Michel Morel la semaine dernière. Ça, c'est un signal bruité, vous le voyez ici. Si vous faites un lissage, c'est-à-dire vous allez en Fourier, vous éliminez les hautes fréquences et vous reconstruisez. Dans un exemple comme ici, voilà ce que vous obtenez si vous faites parfaitement votre lissage. Pourquoi ? Ça marche très bien. Parce que le signal sous-jacent est uniformément régulier. Et là, on ne peut pas faire mieux que Fourier. Fourier est parfaitement adapté. Vous avez éliminé toutes les irrégularités, mais comme le signal n'en avait pas, aucun problème, et vous reconstruisez quelque chose qui est très proche du signal d'origine. Et comme vous avez éliminé toutes les irrégularités, vous avez éliminé quasiment tout le bruit. Si maintenant votre signal il a une tête comme ça, c'est-à-dire régulier par morceaux, Si vous faites la même chose, eh bien vous allez tuer les singularités du signal. Donc du coup, vous avez un espèce de dilemme entre, d'un côté, tuer l'information du signal, de l'autre côté, tuer le bruit. On retombe sur ce dilemme biais-variance. Et qu'est-ce que vous allez faire du coup ? Eh bien, vous allez éliminer un petit peu de bruit, mais pas trop, et voilà le résultat optimal. Ce n'est pas très satisfaisant, parce que vous gardez beaucoup de bruit. Si vous passez en ondelette, voilà la transformée en ondelette du signal ici. Donc ça, c'est le signal d'origine. Les coefficients, ils sont très parcimonieux. Si vous rajoutez du bruit, eh bien, ça va rajouter du bruit sur les coefficients. Vous le voyez là. Ça, c'est tous les petits coefficients qui sont créés par le bruit. Vous voulez éliminer le bruit. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est éliminer les petits coefficients. Comment ? Par seuillage. On va tuer tout ce qui est petit et on va garder que les grands coefficients parce que là, on est sûr qu'il y a de l'information du signal. Et si vous faites ça, ben vous allez obtenir quelque chose comme ça, c'est-à-dire vous avez éliminé tous les petits coefficients, vous avez gardé que les grands, et à partir de cette représentation seuillée, donc vous avez créé une représentation parcimonieuse par ce seuillage, parce que vous saviez que votre signal lui-même est très parcimonieux. D'accord ? Vous reconstruisez, voilà ce que vous avez. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comme vous avez éliminé tous les petits coefficients parce qu'ils sont au-dessous du seuil, toutes les petites fluctuations du signal dans cette zone-là ont disparu. D'un autre côté, les singularités ici, elles ont créé des grands coefficients. Ben, ceux-là, ils ne vont pas être touchés par le seuillage. Parce que justement, le seuillage, comme ces coefficients sont suffisamment grands, les a laissés tels quels. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, vous n'avez pas lissé les singularités, vous les avez préservées. Et donc vous arrivez à restituer quelque chose qui est régulier et qui en même temps maintient les discontinuités. Alors évidemment, il y a une petite erreur près des discontinuités. Pourquoi ? Parce que quand vous gardez un grand coefficient, vous gardez aussi le bruit sur ce grand coefficient. C'est-à-dire que vous avez toujours préservé un petit terme de fluctuation parce que si vous éliminez ce coefficient, vous introduisez plus d'erreurs qu'il n'y avait de bruit. Vous avez donc décidé de le garder et vous avez ces petites erreurs qui restent. Ça, c'est le principe de ces algorithmes de seuillage. Donc ça, c'est la même chose sur des images. Là, vous avez votre image. Là, ça, c'est l'image bruitée. Vous faites un seuillage des coefficients d'ondelette et vous récupérez des choses comme ça. Alors ça, c'est très joli, mais Jean-Michel vous a montré la semaine dernière que ça crée quand même des petits artefacts et qu'il y a des techniques plus efficaces encore que ça qui consistent à travailler sur la statistique des patchs. Quand vous commencez à travailler sur la statistique des patchs, vous commencez vraiment à vous adapter aux propriétés beaucoup plus fines des statistiques de vos images. Et là encore, ça c'est un élément qui va apparaître dans ces techniques d'apprentissage qui ont à leur disposition beaucoup d'exemples. Donc quand vous avez beaucoup d'exemples, vous pouvez commencer à apprendre des éléments sur la statistique de vos images, et en particulier sur la statistique des patchs, et donc vous pouvez faire mieux que simplement prendre des bases choisies arbitrairement, comme les bases d'ondelettes. Une base d'ondelettes, vous pouvez voir ça comme un système d'interprétation de votre signal. Donc là, dans ce qu'on a fait, on a dit à l'avance, le système d'interprétation, je le fixe, et maintenant, quand le signal change, eh ben, je vais essayer de sélectionner différents types de coefficients. Maintenant, il y a un deuxième type de stratégie beaucoup plus générale que vous pouvez adopter, qui consiste à dire, ben, le système d'interprétation, je peux l'adapter en fonction du problème que j'ai. Autrement dit, j'ai envie d'apprendre la base. Et ça, c'est aussi ce qu'on appelle des apprentissages de dictionnaire. Et apprendre la base, eh bien, c'est ce qu'on voit, encore une fois, apparaître dans ces réseaux, c'est-à-dire qu'on va apprendre les opérateurs linéaires. Au lieu de dire « c'est un filtre qui est fixé à l'avance a priori », eh bien, on va apprendre le filtre. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup d'exemples. Et donc on voit qu'on est en train de passer à un niveau encore plus adaptatif. Donc encore une fois, le premier niveau, ça consiste à dire je prends la base et j'oblige de ne choisir systématiquement que les m premiers coefficients. Le deuxième niveau d'adaptativité qu'on a vu là au cours de ces trois derniers cours, ça consiste à dire je me permets de choisir les coefficients, la base étant fixée. Et le troisième niveau, ça a consisté à dire je me permets d'apprendre la base, mais à ce moment-là, il me faut beaucoup d'exemples, et évidemment de choisir de façon adaptative les coefficients, donc avec des techniques de seuillage, et c'est là que vous allez avoir apparaître toutes sortes de non-linéarités. Alors, ce n'est pas pour dire tous ces réseaux, etc., c'est équivalent à ces trois éléments, mais c'est une manière de voir un peu comment l'adaptativité se complexifie, et il y a des aspects encore plus sophistiqués qui apparaissent notamment dans ces réseaux, et de façon plus générale dans les algorithmes d'apprentissage en grande dimension. Alors, je vais m'arrêter là. Dans 10 minutes, il va y avoir un exposé de Pierre Courtiol qui va... j'en parlerai quand j'introduirai quelqu'un qui a une très grande expérience, notamment sur les challenges et sur les méthodologies, qui vous expliquera comment gagner un challenge, essentiellement, et quel type de méthodologie il vous faut adapter. Et vous verrez, ça ne suffit pas de tout essayer, d'essayer n'importe quoi. Donc voilà, je vous recommande fortement de rester pour la partie, surtout si vous faites les challenges de données. Et donc, on va faire une pause. Merci.